Vous écoutez RTL.
Le journal maintenant avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, l'Italie privée de Russie.
La nation du foot reste à quai, éliminée par la Suède et pour la première fois depuis 60 ans, les Italiens ne joueront pas de Coupe du Monde. Dans l'actualité également, le gouvernement qui s'apprête à sévir contre les entreprises qui pratiquent la discrimination à l'embauche, des noms seront rendus publics. Le rapport qui confirme l'erreur humaine qui a conduit à interrompre le trafic pendant 3 jours sur le RER A fin octobre et puis le débat sur le consentement sexuel, le ministère de la Justice veut l'établir à 13 ans. Nous vous expliquerons pourquoi il faut l'inscrire dans la loi.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Ce matin, vous surfez avec le match de ce soir, Allemagne-France.
Allemagne-France, France-Allemagne, terre de clichés.
De météo, d'ici 7h, Marina.
À Nogent-sur-Oise, dans l'Oise, les nuages seront un peu plus nombreux cet après-midi que ce matin, avec une température de 11 degrés.
RTL Matin.
Disastro, c'est le sentiment ce matin en Italie.
Pour la première fois depuis 1958, le pays ne participera pas à la Coupe du Monde de football. Les Italiens ont été éliminés par les Suédois. Un coup terrible pour les champions du monde 2006. On retiendra de cette folle soirée les larmes de Giovanni Buffon, le capitaine de la nationale, qui a 39 ans et après 175 sélections a tiré sa révérence. Alessandro Grandesso, consultant RTL et journaliste à la Gazzetta dello Sport.
Malheureusement, l'apocalypse si c'est réaliste, c'est presque historique parce que 60 ans que l'Italie participait à chaque fois au moins à la Coupe du Monde. Certes, il y a eu des qualifications ratées pour l'Euro 4 fois depuis les années 70, mais voilà, la Coupe du Monde, ça reste la Coupe du Monde, c'est la compétition de référence. C'est malheureux pour le système footballistique italien. Ça va être un choc financier, un choc culturel aussi. Et on espère que de cet apocalypse, il y aura aussi une renaissance, comme il y a eu déjà dans l'histoire d'Italie.
Un choc culturel et financier donc pour Alessandro Grandesso dans RTL Grand Soir avec Christophe Paco. Et puis ce sera un match sans enjeu ce soir pour les Bleus qui se déplacent en Allemagne à Cologne. Match amical à 7 mois du Mondial. 2200 supporters français font le déplacement. Rencontre à suivre dans le club Lisa de 20h à minuit sur RTL.
Vous écoutez RTL, 6h, passé de 33 minutes. Après les gendarmes, les policiers confirment la hausse des plaintes pour violences sexuelles.
Plus 23% en octobre par rapport à la même période l'an dernier. C'était 30% en zone gendarmerie. L'affaire Weinstein a encouragé les victimes à sortir du silence. À partir de quel âge un mineur doit-il être considéré comme consentant lors d'une relation sexuelle? Le gouvernement prépare un texte. L'acquittement la semaine dernière d'un homme accusé du viol d'une petite fille de 11 ans en a consterné plus d'un. Et sur RTL, hier, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, fixait la barre à 13 ans. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Alors pourquoi au juste fixer un seuil?
Absolument, ce seuil, cet âge minimum, permettrait de poursuivre d'office puis de condamner l'agresseur sans qu'il y ait un quelconque débat autour du consentement. Mais où fixer la limite? À 15 ans, l'âge de la majorité sexuelle, ou faut-il aller jusqu'à 13 ans pour le moment? C'est l'âge qui revient dans les conclusions des experts. Le débat est ouvert pour façonner la loi attendue pour 2018, mais tous les juges ne sont pas d'accord sur la question. Certains s'inquiètent déjà du côté automatique de ce seuil. Si la limite est à 15 ans, par exemple, que faire d'une histoire qu'on pourrait qualifier d'une histoire amoureuse entre un garçon de 18 ans, majeur, et une fille de 14 ans? Une partie des magistrats soutient donc que la justice doit continuer de s'exercer au cas par cas, dossier par dossier, pour que la notion de viol ne soit pas galvaudée.
Merci Cindy Hubert.
L'heure des explications pour la SNCF, 2 semaines après les incidents sur le RER A en Ile-de-France.
La compagnie ferroviaire promet de mieux surveiller son chantier dans l'ouest parisien au lendemain de la publication du rapport commandé par le ministère des Transports. Un trou qui avait laissé passer des tonnes d'eau boueuse avait bloqué le trafic du RER A pendant 3 jours. Et on apprend dans ce rapport qu'il n'y avait pas de géomètre le jour du forage. Emmanuel Macron poursuit sa tournée dans les quartiers populaires. Après Clichy-sous-Bois, il est dans le Nord ce matin. Il devrait annoncer à Tourcoing des mesures pour lutter contre les discriminations à l'embauche. Et notamment la publication d'une liste d'entreprises qui ont recalé des candidats aux noms à consonance étrangère sur le principe américain du name and shame. Jean-Christophe Sibéras est l'ancien président du groupe de dialogue sur les discriminations à l'embauche.
Ah, je crois que c'est une mesure très désagréable. Hein. Quand une entreprise a son nom qui est affiché, personne n'aime ça. C'est l'atteinte, finalement, d'une certaine manière, à l'image, à sa réputation. Donc, effectivement, ce sont des mesures qui vont être certainement très efficaces. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise. Dans le programme de la campagne d'Emmanuel Macron, c'était déjà écrit en toutes lettres qu'il se livrerait à ce type de mesure. Donc, maintenant, il met en œuvre ce qu'il avait annoncé il y a 6 mois.
Est-ce que l'entreprise peut être condamnée à des amendes?
Ah, si vous voulez, dans le code pénal, quand vous faites une discrimination, il y a de très nombreux motifs de discrimination. Quand on arrive à le démontrer, c'est un délit. Il y a des sanctions qui peuvent effectivement être particulièrement lourdes. Et là encore, ce jugement pourrait être publié. Mais si vous voulez, par rapport au testing, l'efficacité n'est pas du tout la même.
Jean-Christophe Sibéras avec Agnès Bonfillon. 500 postes menacés chez Castorama et Brico Dépôt, d'après les syndicats. La maison mère Kingfisher pourrait délocaliser une partie de ses activités en Pologne.
Les anciens salariés de Vélib fixés aujourd'hui sur leur sort.
Depuis que l'opérateur qui gérait les vélos en libre service a été remplacé à Paris par la société Smooth & Go, les anciens de Vélib demandent à être réembauchés automatiquement. La justice se prononce aujourd'hui. Éric Vanier.
Plusieurs centaines de lettres de candidature sont déjà arrivées sur le bureau du nouvel opérateur, mais très peu de la part des salariés actuels de Vélib, à part les CDD, personne. Pourtant, Georges Azevedo, le directeur général de Smooth & Go, les attend.
Évidemment, ce sont des profils qui nous intéressent, donc ils seront prioritaires par rapport aux candidatures qu'on reçoit, par rapport aux autres.
Mais la plupart des salariés de Co contestent la démarche. Pourquoi postuler, passer un entretien d'embauche, avoir une période d'essai? C'est vexatoire pour William, mécanicien vélo.
Comme si on était des débutants, on a fait 10 ans, c'est nous qu'on a bâti Vélib. Smooth, ils vont me prendre avec un CV et c'est même pas sûr, c'est ce qu'ils disent. Faut pas que j'aille pour régresser.
Smooth & Go promet la même rémunération, mais pas forcément des conditions de travail identiques. En fait, ce que veulent les syndicats, dont Hamza Kababa de la CGT, c'est le basculement automatique de tous les contrats de travail.
Comment ça va se passer? Ils vont reprendre, oui, mais au bout de 2 mois, tous ceux qui veulent pas, les syndicalistes, les trucs, ils seront plus dans la boîte. Nous, on veut que tout le monde soit repris. Il n'y a pas de raison. On trouve que c'est un manque de respect pour nous. Ça fait 10 ans qu'on répare des vélos, on sait réparer des vélos, c'est pas un souci ça.
Le tribunal de Nanterre a donc été saisi. Il se prononcera cet après-midi.
Éric Vanier.
SOS, on étouffe. On en parle dans un instant sur RTL. Bon réveil.
RTL Matin.
Julien Cellier.
6h39, la suite du journal. Malgré les sommets, malgré les promesses, l'état de la planète continue de se dégrader.
15 000 scientifiques du monde entier viennent de lancer un appel, un avertissement en réalité. Leur constat, il est très simple. Les émissions de CO2 sont reparties à la hausse après 3 années de stagnation. Écoutez le climatologue Jean Jouzel avec Virginie Garin.
Il faut faire l'effort maintenant, il sera trop tard si nous y mettons dans la prochaine décennie. Par rapport à l'accord de Paris lui-même, aux engagements des pays, certains pays ont quand même déjà du retard. Les États-Unis en ont. En France, nous avons par exemple du retard aussi sur la mise en œuvre du renouvelable. Donc il faut maintenant s'y mettre pour avoir des chances de rester en deçà de 2 degrés à long terme. On n'a vraiment plus que 3 ans pour agir. Il faut que le maximum, le pic d'émissions des gaz à effet de serre ne soit pas plus au-delà de 2020. Si le pic est en 2030, eh bien, ça deviendra pratiquement impossible. Il faut faire beaucoup plus rapidement.
Jean Jouzel avec Virginie Garin. Et puis on finit par ce visage qui fait la une du journal L'Équipe ce matin, le visage de David Poisson. Le skieur de 35 ans est mort à l'entraînement dans une station du Canada. Il avait remporté le bronze aux mondiaux de ski alpin en 2013.
C'était le journal de Jérôme Flora. Tout à l'heure, 8h, Jérôme avec Yves Calvi. Le temps, Marina, et on prévient les auditeurs qui s'apprêtent à prendre leur voiture ce matin. Il faut faire attention, par endroits, il y a des brouillards et ils peuvent être épais.
Oui, notamment dans le nord-est du pays, par exemple à Thiéfosse dans les Vosges, il y a du brouillard, nous dit Christophe, et à La Veuve dans la Marne, moins 3 degrés, et un épais brouillard, nous dit Doberman. Donc une fois que le brouillard sera dissipé, et parfois il aura du mal, eh bien les nuages prendront le relais sur la zone qui va du Grand Est en allant vers le centre, le massif central, et en descendant vers l'ouest de Rhône-Alpes. Donc grisaille assez tenace toute la journée. Des nuages aussi vers les côtes de la Manche. Et ces nuages vont s'étendre cet après-midi à la Bretagne, à l'Île-de-France et aux Ardennes. En attendant que les nuages arrivent, ce sera ensoleillé sur ces régions. Il y aura quelques gouttes vers les Hauts-de-France. Nuages et averses pour la Corse et partout ailleurs, ce sera du soleil, donc des Alpes à la Méditerranée. Et sur l'ouest du pays, vous aurez du beau temps, mais avec du mistral et de la tramontane assez fort. Température en baisse ce matin et un peu comme hier, cet après-midi, entre 6 et 17 degrés.
Merci Marina.